Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir, nous allons revenir aujourd'hui sur l'arrestation de l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabuga, présenté comme le financier du génocide de 1994 au Rwanda. Pendant des années, on a vu sa photo dans les journaux avec cette mention « recherché pour génocide ». Sa fortune, son carnet d'adresse aussi l'ont aidé sans doute à échapper si longtemps à la justice, mais cette fois c'est fini. La cavale s'est arrêtée samedi dernier en banlieue parisienne. En principe, Félicien Kabuga devrait être remis à un tribunal international et jugé pour génocide et pour crime contre l'humanité. Que peut-on attendre de ce procès à venir ? Cette arrestation permettra-t-elle d'en savoir plus sur les complicités qui lui ont permis de se cacher pendant si longtemps ? Et quel avenir pour les autres personnalités impliquées dans le génocide et qui sont toujours en fuite aujourd'hui ? On en parle pendant les 20 prochaines minutes avec mes invités. Bonsoir Hélène Dumas.
Bonsoir.
Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS et nous sommes en ligne également avec Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors hier, c'est un vieux monsieur qui s'est présenté devant la justice française en fauteuil roulant, affaibli physiquement, ce qui rend peut-être un peu difficile, ce qui complique un peu le fait d'imaginer ce qu'il pouvait représenter au Rwanda il y a 30 ans. En fait, c'était un homme d'affaires extrêmement influent et puissant dans les années 90, Hélène Dumas.
Oui, il faut bien se rendre compte aujourd'hui que même s'il apparaît sous les traits d'un vieillard, hein, effectivement, il est né en 1935, donc il est âgé de 85 ans. Et bien, à l'époque, surtout dans ces années de préparation du génocide, entre 1990 et 1994, Félicien Kabuga était l'une des plus grosses fortunes du Rwanda et il était très lié, notamment par des liens matrimoniaux de ses enfants à ce qu'on a appelé la casou, la petite maison, hein, qui en fait recouvre eh bien ce réseau d'extrémistes hutus qui eh bien progressivement ont accompagné la marche au génocide à travers diverses institutions dans lesquelles le nom de Félicien Kabuga se retrouve, en particulier la radio-télévision libre des Mille Collines créée en 1993 et surtout les milices Inyamwe créées dès 1992.
Alors, on va revenir peut-être sur plusieurs des points, des fonctions qu'il a occupées et dont vous venez de nous parler. C'est lui, par exemple, qui a créé le Fonds de défense nationale qui soutenait le gouvernement intérimaire, donc le régime génocidaire qui a été mis en place après l'assassinat du président Habyarimana en 94. Alain Gauthier, qui finançait ce fonds en plus de lui et comment est-ce que l'argent a été utilisé ?
Là, vous me posez une question à laquelle je ne suis pas vraiment préparé parce que personnellement, je m'attendais plutôt à être interrogé sur les problèmes judiciaires. Donc, je laisse peut-être à...
On va demander à Hélène Dumas, évidemment, Hélène Dumas, on a beaucoup de questions d'ordre judiciaire à vous poser aussi.
Voilà.
Hélène Dumas, je vous pose la même question. Comment fonctionnait ce fonds qui a joué un rôle essentiel ?
Oui, alors ce fonds, il a été mis en place à la fin avril 1994, mais pour comprendre peut-être la mobilisation des fonds, il avait évidemment des réseaux financiers de par ses investissements, etc. Donc là aussi, je pense que si l'enquête est bien menée autour de cette affaire, eh bien, on en saura plus aussi sur la provenance de ces fonds et sur la manière dont ils ont été mobilisés. Mais ce que je voudrais indiquer, préciser, c'est que Félicien Kabuga n'a pas attendu la fin avril 1994 pour mobiliser sa fortune en vue notamment de soutenir financièrement les miliciens Inyamwe qui ont été extrêmement engagés dans les violences contre les Tutsis à la fois avant le génocide et évidemment surtout pendant le génocide des Tutsis. Son nom est cité, revient de manière récurrente dans le rapport publié par Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l'homme, Aucun témoin ne doit survivre, qui rapporte qu'il aurait, en janvier 1993 et en mars 1994, commandité l'arrivée au Rwanda, l'importation au Rwanda de plusieurs centaines de tonnes de machettes qui ensuite ont été distribuées prioritairement aux miliciens Interahamwe et également à la population civile dans le cadre de ce qui était appelé à l'époque l'autodéfense civile. Donc ce fonds de défense nationale, il a une histoire longue et qui permet également de lever le voile sur quelque chose de très important qui est la préparation du génocide. Alors je ne sais pas si la compétence temporelle du TPIR permettra de revenir sur l'avant-génocide, sur les années qui ont précédé 1994, mais je l'espère, puisque c'est quand même un homme qui est au cœur de la préparation du génocide. Et si on n'a pas d'éléments concrets sur la... Enfin, on a des éléments concrets, mais peut-être que l'enquête permettra d'en avoir plus sur une préparation qui est extrêmement minutieuse. Et on ne peut pas comprendre la redoutable efficacité du génocide. Je rappelle que pendant le génocide, près d'un million de personnes ont été assassinées en moins de 3 mois. Eh bien, c'est le génocide sans doute le plus efficace du XXe siècle. Et pour qu'il eût été aussi efficace, il fallait une préparation minutieuse. Et Félicien Kabouga était sans doute une des personnes qui était au cœur de cette préparation du génocide.
Donc, il y a eu des achats d'armes, vous nous en avez parlé. Il y a eu aussi un soutien à un autre niveau par le biais de la radio-télévision d'Émile Colline qui a multiplié les appels à la haine et donné des noms, des adresses pendant le génocide. Et puis, vous nous avez parlé de la CASU, ce cercle de proches du président Habyarimana. Avant qu'on entende Alain Gauthier sur des questions plus judiciaires et sur les poursuites, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Hélène Dumas, de la manière dont fonctionnait cette sorte de pouvoir parallèle au début des années 90?
Alors, c'est surtout autour du cercle du président Habyarimana, mais essentiellement autour de sa femme, Agathe Kandziga, qui, Alain Gauthier en parlera mieux que moi, réside actuellement en France.
On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, oui, bien sûr.
Et c'est surtout autour de cette famille. C'est essentiellement des liens familiaux, matrimoniaux, qui bien sous de ce groupe d'extrémistes, qui a des liens parallèles, plus ou moins occultes, dans toutes les institutions de l'État à l'époque, à la fois l'administration, l'armée, les médias avec la création de la RTLM et qui va progressivement pouvoir maîtriser tous les leviers de l'État pour mettre en œuvre l'exécution du génocide à partir du 6 avril 1994.
Alors le premier mandat d'arrêt contre Félicien Kabouga a été lancé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda en 1997. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Alain Gauthier ?
Ah bien, depuis, si vous voulez, Kabouga n'a cessé d'être recherché à la fois par les autorités rwandaises, mais aussi toutes les grandes polices internationales. On l'a situé très souvent au Kenya, protégé par les autorités mêmes de ce pays. Mais on sait qu'il a voyagé dans un nombre important de pays. On parle des États-Unis, de nombreux pays d'Europe. Il faut savoir qu'il avait à sa disposition, je pense, un certain nombre de passeports et de protection, et l'argent qu'il possédait lui a servi à se déplacer. Il faut savoir qu'il avait aussi, Hélène vient de parler de sa famille, il avait des gendres qui avaient des postes importants, dont deux de ses filles avaient épousé des fils à Habyarimana, mais une autre avait épousé Augustin Ngirabatware, un ancien ministre qui a été condamné par le TPIR, une autre aussi, avait épousé Fabien Singaye, qui était un homme très très louche et qui travaillait en Suisse et qui a fini par se retrouver en Afrique auprès du président Bozizé. J'espère que cette arrestation permettra aussi d'y voir clair par rapport à tous ces membres là qui gravitent autour de lui.
Alors vous nous disiez qu'il a bénéficié de protection, notamment au Kenya, peut-être aussi ailleurs. Est-ce que ça peut être le cas, par exemple, aussi en France, Hélène Dumas ?
Alors ça, je ne sais pas. Je pense qu'il faudra attendre. Je voudrais dire que l'arrestation de Félicien Kabouga pose deux types de questions très, très, très différents. D'abord, celui de la possibilité de lever le voile sur la préparation du génocide et sur le volet financier qui a alimenté donc la préparation et l'exécution des massacres en 1994, mais aussi l'histoire longue de cette traque. Alain Gauthier l'a dit, il faudrait pouvoir savoir exactement de quel type de complicité et à quel niveau il a pu bénéficier. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il est trop tôt pour répondre. Il faudra, je pense, que ceux qui ont couvert sa traque, hein, sa cavale de 26 ans, eh bien, seront également traduits en justice. En tout cas, je pense que c'est comme ça que ça se passe lorsque on couvre la cavale d'un homme qui est recherché par les instances pénales internationales. Et donc, peut-être que ce volet de l'affaire permettra justement de lever le voile sur le degré des complicités dont il a pu bénéficier.
Alors, Félicien Kabouga était recherché depuis des années, on l'a dit, recherché aujourd'hui par le mécanisme de suivi, le mécanisme résiduel des tribunaux internationaux de La Haye. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette structure, Alain Gauthier ? C'est le prolongement du tribunal pénal international pour le Rwanda.
Oui, lorsque le TPIR a clôturé ses activités, il a été mis en place effectivement ce fameux mécanisme de suivi qui est chargé de s'occuper des dossiers encore en instance. Alors, il y avait deux catégories de personnes qui sont visées par ce mécanisme. Vous aviez d'abord des gens comme Kabouga, ainsi qu'un autre qui s'appelait Protais Mirania, qui était le chef de la garde présidentielle, ainsi qu'Augustin Bizimana, qui était ancien ministre de la Défense. Ces trois personnages essentiels, eh bien, on peut dire que le mécanisme de suivi a décidé de le garder. Et au cas où on les trouverait, ils avaient déjà, au TPIR, enquêté, recueilli un nombre de témoignages afin qu'on puisse les juger le jour où ils seraient arrêtés. Donc, c'est Kabouga qui est arrêté le premier, les autres, c'est pareil, on ne sait pas s'ils le seront. Et puis, vous aviez trois ou quatre autres personnes pour lesquelles des enquêtes avaient été faites aussi, mais dont on sait que s'ils étaient retrouvés, ils seraient envoyés vers le Rwanda. Personnellement, j'aurais bien aimé que Kabouga soit aussi renvoyé devant le Rwanda pour y être jugé. Apparemment, il est à peu près décidé, mais ça va prendre certainement du temps parce qu'il va utiliser toutes les procédures avec ses avocats. Apparemment, il sera donc extradé vers ce mécanisme, à La Haye ou à Arusha. Le responsable, M. Brammertz, le responsable du mécanisme, en dira un peu plus. Mais on a la certitude, en tout cas, et ça c'est une grande nouvelle, qu'il sera jugé et que ce procès ou même les interrogatoires qu'il subira avant nous apporteront des éléments essentiels dans d'autres dossiers, et je pense en particulier à celui de Mme Agathe Avyadimana, avec laquelle il a certainement dû garder des contacts.
Alors, puisque vous nous en parlez, on peut l'évoquer maintenant, puisque ça fait déjà deux fois que son nom revient dans la conversation. C'est vrai que Félicien Kabouga est un très proche de la famille Habyarimana, vous nous l'avez dit. Deux de ses filles sont mariées à des fils de l'ancien président rwandais. Et est-ce qu'on sait, par exemple, Alain Gauthier, si Félicien Kabouga était toujours en contact avec l'épouse de l'ex-président, donc Agathe Kanziga, qui vit en France aussi depuis des années ?
Alors écoutez, là on ne peut pas le savoir, on ne peut que le supposer. Félicien Kabouga arrive donc dans la région parisienne où il a certains de ses enfants. Il semblerait que beaucoup de ses enfants soient domiciliés en Belgique, mais ils habiteraient aussi un certain nombre en France. On est obligé de croire qu'il a gardé des contacts avec la famille Habyarimana et en particulier avec Agathe Kanziga, qui est effectivement poursuivie par le collectif des partis civils pour le Rwanda, initialement en tout cas, depuis février 2007, affaire pour laquelle nous n'avons pas véritablement de nouvelles. Je sais l'an dernier, pour être allé au Rwanda, que les juges d'instruction français continuaient leur commission rogatoire dans cette affaire, mais nous ne savons pas où on en est. Agathe Habyarimana n'a pas obtenu le titre de réfugié, elle n'a pas de titre de séjour et elle habite Courcouronne, dans la banlieue parisienne, le sud parisien.
C'est ça, elle a un statut très particulier en France.
Eh bien oui, mais à la limite, elle n'a même pas de statut, puisque on lui a refusé le statut de réfugié et le titre de séjour. Alors elle a fait appel à la Commission européenne des droits de l'homme, mais cette instance-là tarde toujours à répondre et de toute façon n'a pas le pouvoir de faire condamner une décision de justice en France. Agathe Kanziga, il faudrait absolument, parce qu'elle aussi, elle commençait à être gagnée par l'âge, il faudrait absolument qu'on voit ce dossier avancer rapidement.
Et puis, alors, on parlait d'Agathe Kanziga, donc l'épouse de l'ancien président Habyarimana, qui a été assassiné qui est mort dans l'accident d'avion en avril 1994. Hélène Dumas, est-ce qu'il reste aujourd'hui des personnalités de ce niveau, de cette importance, qui sont encore recherchés pour leur implication dans le génocide rwandais?
Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de fugitifs, de personnes dont de forts soupçons pèsent sur leur participation au génocide des Tutsis. Mais peu à peu, il y en a quand même un certain nombre qui tombent dans les filets de la justice, y compris, on peut citer par exemple le cas d'Angélique Mukandutiye, qui est une ancienne inspectrice scolaire, qui a été, elle, arrêtée au Rwanda en décembre 2019. Hein, elle tentait de se fondre dans la masse des personnes qui revenaient du Congo, et puis elle a été reconnue à la télévision par une rescapée, et donc elle avait déjà été jugée par contumace, donc elle purge sa peine à perpétuité aujourd'hui au Rwanda. Donc il y a des cas comme ça chaque année. Là, on a eu l'arrestation de Félicien Kabuga, et Alain Gauthier le rappelait tout à l'heure. Parmi les fugitifs du TPIR, il reste deux personnalités maintenant à rechercher, Protemirania et Augustin Bizimana, et en particulier Protemirania, qui était donc responsable de la garde présidentielle et qui est là encore un responsable d'une force armée qui a été particulièrement impliquée dans les massacres, et en particulier dans le massacre des opposants politiques Hutus au régime, qui ont tous été assassinés le 7 avril.
Si vous permettez, je voudrais qu'on dise deux mots aussi concernant la politique d'accueil des réfugiés rwandais depuis la fin des années 90. Il faut savoir que la France a accueilli un nombre très très important de réfugiés rwandais pour la simple et bonne raison qu'ils avaient organisé ici en France, autour d'un certain Emmanuel Rwikangira, une sorte d'association qui œuvrait auprès de l'OFPRA. Ce monsieur-là, qui est décédé depuis, avait réussi à se faire embaucher comme traducteur en Kinyarwanda dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy. Et donc, par ce biais-là, beaucoup de personnes qui ont trempé dans le génocide ont pu être accueillies. On dit qu'en 1999, plus de 200 dossiers ont donné des accords positifs. Donc, si on parle bien sûr des gens qui restent encore à poursuivre, il faut savoir qu'il y en a certainement beaucoup, beaucoup en France, qui aujourd'hui, évidemment, ne doivent pas être très, très fiers, probablement qu'ils vont se faire discrets. Mais,
et qui seraient entrés donc sur le territoire français via cette méthode un peu trouble dont vous nous parliez à l'instant. Hélène Dumas, je voulais vous poser une dernière question. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps d'en aborder d'autres. Vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que beaucoup des responsables qui ont été jugés pour génocide ont plaidé non coupables jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez que Félicien Kabuga parlera lors de son procès et qu'on pourra vraiment en apprendre davantage ?
Alors là, c'est une des grandes interrogations. Voilà, effectivement, les plaidoyers de culpabilité et le passage aux aveux sont rares. Hein. C'est vraiment l'exception et pas du tout la règle. Hein. La coopération des accusés avec la justice est très difficile. Et vu les échos qu'on a pu avoir de son attitude hier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, il est peu probable qu'il coopère avec la justice et qu'il avoue effectivement qu'il mette sur la table tous les éléments de sa contribution au réseau extrémiste, aux médias et aux milices. En revanche, ce qui accompagne la parole de l'accusé, c'est aussi l'enquête. Et on peut espérer que l'enquête, si elle est bien faite, puisse mettre au jour un certain nombre d'éléments.
Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission. Hélène Dumas, merci. Historienne et chargée de recherche au CNRS. Et Alain Gauthier, merci. Je rappelle que vous êtes président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Cette émission Décryptage a été réalisée ce soir par Luna Timbal, attachée de production Éléonore Krinik et Patrick Adam à la rédaction en chef. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres d'ailleurs sur l'application RFI Pure Radio ou alors sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de RFI. Ne bougez pas, dans quelques secondes, c'est le débat du jour. Guillaume Nodin et ses invités s'interrogent sur les plateformes d'internet. Est-ce que ce sont les grands vainqueurs de la crise du coronavirus ?